Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mercredi, nous découvrirons au cinéma Quand on a 17 ans. C'est le nouveau film d'André Téchiné. Les confidences de ce grand cinéaste dans un instant au micro de Stéphane Boutsock. Et nous vous offrirons au 3210 des DVD d'un film que nous avons beaucoup aimé, L'Hermine, avec Fabrice Luchini. Les métiers d'art sont à l'honneur cette semaine partout en France, à travers près de 600 manifestations. La plus originale est l'exposition Double Jeu, J-E, hein, conçue comme façon Cluedo au Palais de Tokyo à Paris. Monique Younes nous y emmènera. Charlotte Arrigoni nous a préparé ses express du jour et puis nous reviendrons bien sûr avec Isabelle Morini-Bosque sur la disparition hier d'Alain Decaux, celui qui a si bien su nous raconter la grande histoire sur le petit écran.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
C'est un de nos grands cinéastes qui fait son retour mercredi sur les écrans, André Téchiné. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous l'avez rencontré à l'occasion de la sortie de son 21e film, Quand on a 17 ans.
Le face-à-face entre deux adolescents montagnards, l'un vit dans une petite ville, l'autre à la campagne. Damien et Tom se détestent instantanément, mais les hasards de la vie vont les forcer à cohabiter et accepter petit à petit que leur haine cache peut-être une attirance. Alors je vais vous reparler du cœur de ce film qui n'en manque pas dans un instant, mais premier constat, à 73 printemps, Téchiné, réalisateur entre autres de Hôtel des Amériques, Rendez-vous ou Ma saison préférée, a retrouvé la fougue d'un gamin derrière une caméra.
Mais j'ai un cœur de 17 ans, hein. Bien sûr, hein. Le reste du corps ne suit pas, n'est pas le même, mais les âges de la vie, ça peut très bien se mélanger. Et en tout cas, le cinéma, c'est pour moi un moyen de construire un pont avec la jeunesse, et là, dans ce film, avec l'adolescence. Donc il fallait qu'il transmette cette énergie, et dans cette énergie, il y a aussi de la violence qui passe.
Violence, énergie, deux mots qui résument bien cette période charnière de l'adolescence, formidablement captée par André Téchiné dans Quand on a 17 ans, avec en plus un regard neuf sur ces gamins de la campagne ou de la montagne.
Les adolescents qui vivent dans ces milieux sociaux seront pas non plus très souvent montrés par le cinéma qui est plutôt un cinéma urbain ou même un cinéma de la banlieue et des cités. Mais là, c'est vraiment l'extrême périphérie. Et j'avais envie de montrer comment ces adolescents rêvent et vivent dans le monde d'aujourd'hui, parce que même si on est dans la montagne, ça reste donc connecté avec le monde contemporain. Mais ça m'intéressait en même temps de montrer des adolescents qui ne sont pas au centre de la représentation telle qu'on peut l'avoir au cinéma ou à la télévision, de leur donner de la visibilité alors qu'ils étaient dans l'arrière-pays.
Alors, vous le disiez en commençant, Stéphane, au-delà de cet aspect social ou sociétal de l'histoire, le film aborde aussi un autre thème, celui de l'attirance entre les deux garçons.
Oui, Damien et Tom se repoussent tellement qu'ils vont finir par s'attirer, un peu comme deux aimants devenant amants. Pas facile, parce que l'homosexualité reste compliquée à avouer et à assumer, notamment à la campagne. Mais André Téchiné installe son sujet au cœur de familles unies, où la maman d'un des garçons, jouée par Sandrine Kiberlin, une nouvelle fois remarquable, accepte et protège son fils quand elle comprend sa nature profonde. Le réalisateur, qui a déjà abordé ce thème dans Les Roseaux Sauvages, J'embrasse pas ou Les Témoins, ne voulait surtout pas être militant, mais au contraire, notamment après les tensions du mariage pour tous, apaiser le climat.
Je n'avais pas du tout envie de donner une image de conflit. Peut-être avec l'idée que si les spectateurs voient, et là je parle des spectateurs adultes et des parents éventuellement, voient le film, ils puissent, s'ils sont dans leur propre vie et dans une situation de désarroi par rapport à l'orientation de leurs enfants, il puisse y avoir quand même des images réconfortantes, des images qui ne sont pas des images de conflit et de culpabilité. Que tout de suite, ce ne soit pas la honte, la colère ou l'effroi. Il y avait sans doute une volonté d'apaisement quand j'ai construit ce prototype, c'est-à-dire ce personnage de mère.
Alors il faut aussi citer les deux comédiens, deux jeunes comédiens vraiment impressionnants du film, Casey Motet-Klein et Corentin Fila, deux prestations intenses, très justes, avec des scènes pas faciles à jouer.
André Téchiné, lui, est déjà concentré sur son prochain film.
Oui, tournage dès cet été d'un long métrage en costume qui va se passer durant la guerre 14-18 à Paris. Le film s'appelle Nos années folles, l'histoire d'un déserteur caché par sa compagne et travesti en femme pour échapper à l'armée. C'est une histoire vraie, ce qu'on appelait les garçons au début du XXe siècle. Adèle Exarchopoulos et et Pierre Deladonchamp tiendront les rôles principaux. Vous l'aurez compris, pour Téchiné, seul compte le film d'après. Pas question pour lui de se retourner sur sa glorieuse filmographie.
Pour moi, c'est ça le piège. C'est-à-dire que, bien sûr, que je suis rattrapé par ma propre personnalité, à mon insu. Je creuse toujours le même sillon, et ça, vous vous en rendez compte, puisque vous voyez mes films. Mais ça, je veux surtout pas en être conscient au moment où je l'ai fait. Si on parle d'Ingmar Bergman, je sais que la critique qui l'avait le plus blessé, c'est au moment de Sonate d'automne, quand il avait lu Bergman fait du Bergman. D'une certaine manière, je crois que c'est ce qui peut arriver de pire. J'essaie toujours de fuir cet auteurisme, ce narcissisme d'auteur dans lequel on voudrait parfois m'enfermer.
Quand on a 17 ans, remarquable nouveau film d'André Téchiné, ça sort mercredi au cinéma.
Il est charmant, il parle très bien du
ouais,
cinéma.
Mais il est...
Du cinéma encore avec notre cadeau du jour. Hein. À gagner ce matin des DVD Gaumont de L'Hermine, le film de Christian Vincent avec Fabrice Luchini dans le rôle formidable d'un magistrat amoureux. Il faut pour l'emporter répondre à votre question, Stéphane.
Quelle actrice interprète le rôle de la maman d'un des ados du film quand on a 17 ans?
Réponse au 32-10. Et nous passons donc aux audiences télévisées avec nos amis de Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Un carton plein pour TF1 ce week-end, a commencé logiquement par le match de foot Pays-Bas-France vendredi, suivi par 5 600 000 téléspectateurs, 24% du public, dont 47% des 15-24 ans. Même configuration samedi avec près de 6 millions de téléspectateurs sur la une devant The Voice. Le deuxième, c'était le polar de la 3 Mongeville. Quant à hier, hier Avatar était logiquement et forcément en tête, 6 400 000 téléspectateurs sur la une, 31% du public, et le deuxième étant Ratatouille sur M6, évidemment, 3 820 000, mais tout de même, quasiment 3 200 000 téléspectateurs devant quoi? Devant les tontons flingueurs sur France 2. Et voilà, ça fait toujours plaisir.
On vous retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée?
Oui, si vous voulez.
Très bien. Et on va passer aux Express avec Charlotte Arrigoni. Non, je bouscule l'ordre apparemment.
Les Express LVT.
Bah, c'est extraordinaire. Tout le monde me regarde stupéfait. C'est lundi de Pâques.
Hein. Oui.
Pourquoi je me suis trompé dans mon ordre? Regardez Charlotte.
Mais je suis prête, je suis là. Voilà. Donc,
alors, dans ce cas-là, je dis bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte. On l'évoquait il y a un instant.
Non, on n'évoquait pas.
Ça marche plus. Bon, alors, nous allons évoquer dans un instant avec Isabelle Morini-Bosque qui me regarde avec un air consterné la disparition d'Alain Decaux. Les États-Unis, eux aussi, ont perdu un très grand nom de
littérature. À savoir Jim Harrison. L'écrivain s'est éteint samedi à l'âge de 78 ans. Bon vivant, passionné de nature, il laisse en héritage une trentaine de livres, dont les romans d'Alva ou encore le recueil de nouvelles Légendes d'automne. L'une d'elles avait d'ailleurs été adaptée en 95 au cinéma avec Brad Pitt.
Du beau monde à l'affiche du 8e festival du film policier de Beaune qui s'ouvre mercredi.
Pour cette nouvelle édition, Beaune recevra notamment Brian De Palma. Un hommage sera rendu vendredi au réalisateur de Scarface et Mission Impossible. Côté compétition, 8 films seront en lice. Parmi eux, deux longs métrages 100% français, Braqueur de Julien Leclerc et Diamant Noir d'Arthur Harari.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours des très grands noms du cinéma au Festival de Beaune. Mmh. Je dis que quand même, un petit coup de rougeau, ça peut éventuellement les inciter à venir découvrir cette ravissante ville. Alors, vous avez entendu le jingle de Tweet est permis. On connaît tous Harry Potter. Et bien, le célèbre petit sorcier à la cicatrice sur le front a failli ne jamais voir le jour.
Et en effet, puisque J.K. Rowling, celle qui lui a donné la vie, a publié sur le réseau Twitter ce week-end des lettres de refus adressé par des éditeurs à qui elle avait envoyé le manuscrit de Harry Potter. Potter qui, depuis sa première parution en 97, s'est tout de même vendu à 450 millions d'exemplaires dans le monde.
Une broutille. Pour conclure, Charlotte, Disney est désormais la marque la plus puissante du monde.
Oui, c'est un classement réalisé chaque année par le cabinet britannique Brand Finance et il en ressort que le groupe américain détrône désormais le danois Lego. Et Disney peut notamment remercier Star Wars, la sortie du 7e volet, a sans conteste boosté les résultats. La seule marque française qui figure dans le top 10, c'est l'entreprise de cosmétiques L'Oréal. Elle se classe 3e.
C'est pas mal. Hein. Merci beaucoup, Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter en avant-première. Vous l'avez compris. Alors, je mets un peu d'ordre dans mes idées. Je vous remercie d'écouter RTL en ce lundi de Pâques. Et on se retrouve effectivement avec Isabelle Morini-Bosque dans quelques instants.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Attention. se fait plaisir à écouter ce générique, était celui d'Alain Decaux raconte. Alors celui qui a réalisé de fortes audiences, de très fortes audiences, hein, durant des décennies, c'est évidemment Alain Decaux qui nous a quittés hier à l'âge de 90 ans, Isabelle.
Oui, il est entré dans l'histoire en le racontant, et en le racontant comme on ne la racontait pas avant lui, c'est-à-dire en mettant de la chair autour des dates historiques, et il disait régulièrement avec l'histoire, vaut mieux en faire trop que pas assez. Lui, il a su faire dès 1951 et durant 46 ans sur France Inter avec la Tribune de l'Histoire, et dès 1957 à la télévision avec La Caméra Explore le Temps, puis Alain Decaux raconte, puis le dossier d'Alain, les dossiers d'Alain Decaux. Ça ne l'a pas empêché de publier une quarantaine d'ouvrages, dont le dernier, Fabuleux Destin, est paru en 2015. Et tout ça est parti d'où ? Eh ben d'Alexandre Dumas.
Quand mon grand-père m'a apporté Le Comte de Monte Cristo, j'avais 11 ans, je l'ai dévoré en 6 jours, un jour, par tome. Là, je suis tombé dans l'amour du passé à travers le roman. Mais justement, à 14 ans, je demandais à chaque fois un livre de Dumas. Mon père finit par me dire, est-ce que tu sais que tout ça n'est pas absolument vrai ? J'étais troublé. J'ai commencé à lire des historiens. Je me suis dit, c'est pas si mal de faire de l'histoire. J'ai fait de l'histoire toute ma vie.
C'est vrai que c'était troublant.
Absolument. Et ça donne quoi à l'antenne ? Eh bien, écoutez par exemple le début de l'assassinat de Jaurès.
Le 31 juillet 1914, à 21h40, Jean Jaurès s'est attablé au café du Croissant à l'angle de la rue Montmartre. Il fait très chaud, une des journées les plus chaudes de l'année. Alors au café du Croissant, on a laissé ouvertes toutes les fenêtres. Et Jaurès, sur sa banquette, est justement assis devant une de ces fenêtres, le dos à la fenêtre. Et entre la
c'est
rue
cette
et
façon de raconter ce phrasé particulier qui ont toujours enthousiasmé Stéphane Bern.
Il était seul comme ça à la télévision sur fond noir et puis il pointait son doigt et il disait « Et alors ?» Et alors nous on était suspendus à ses lèvres évidemment. Aujourd'hui on ne pourrait plus le faire parce qu'on a besoin d'images. Mais lui, il arrivait par son doigt, par sa gestuelle, par son amour de la langue à retranscrire évidemment l'événement.
Oui, là aussi il sut enquêter sur des personnages méconnus comme le géologue Conrad Killian, sans doute assassiné à Grenoble en 1950. Il a su aussi en créer puisqu'il a par exemple coécrit le scénario d'Angélique et le roi en 66. Il sait aussi toujours revendiqué d'une gauche humaniste qui l'a poussé à devenir ministre délégué de la francophonie sous Michel Rocard, mais aussi à produire des spectacles avec Robert Hossein, dont Le cuirassé Potemkin, Un homme nommé Jésus, sans oublier De Gaulle, celui qui a dit non avec Alain Perfide. L'histoire, il a aussi été dedans. Par exemple, quand il a soutenu Sacha Guitry accusé de collaboration, durant toute la durée du procès, il me l'a souvent raconté, il a protégé avec ses copains jour et nuit la maison de l'écrivain pour qu'elle ne soit pas pillée, d'où une amitié à la vie, à la mort avec le maître, et sa capacité d'admirer incluait les polars, notamment Arsène Lupin. Même très malade, il allait encore à Étretat chaque année pour la remise du prix Arsène Lupin, où il m'avait confié « Chaque jour, je continue à apprendre de l'histoire ».
Bon, c'est très attachant ce que vous nous dites de lui. Je ne savais pas qu'il avait collaboré au scénario d'Angélique et le roi. Oui. Robert Hossein s'est bien gardé de nous en parler ce matin. C'est étrange, hein. Alors, voilà, votre temps fort pour notre soirée télévisée. Ce soir, c'est le portrait que France 3 consacre à la Françoise Hardy. Qui s'appelle Françoise Hardy, tant de belles choses.
Oui, et c'est pas de la publicité mensongère, il y a de belles choses et une belle franchise, forcément, dans ce portrait, où elle commence d'ailleurs par évoquer la vie qui a failli la quitter, puis l'homme qui l'a souvent quittée. Elle, la fille d'un bourgeois marié, mais pas à sa mère. Elle, la petite fille d'une grand-mère qui l'a trouvé laide et le lui disait souvent, alors qu'à 20 ans, Mick Jagger et Bowie se disaient dingues d'elle. Oui. Écoute, sa silhouette correspondant au nouveau canon de l'époque, écoutez plutôt.
Françoise Hardy, auteur, compositeur, interprète. Elle est la chanteuse la plus photographiée de France. Avec son corps qui semble sorti tout allongé d'un dessin de Picasso, elle est typique de toute...
Et puis, il y a Dutronc, gêné par sa célébrité, pas au point de la laisser. La délaisser, ça lui arrive. Leur vie est très peu commune à tous les sens du terme dès le début. Leurs tubes sont originaux aussi.
Tiens, allume donc les bougies. Et toi, passe-moi les allumettes. Dis donc, tu te prends pour Johnny. Et toi pour Madame Smith.
Voilà. Et en 73, c'est la naissance de Thomas. Jacques Dutronc gère à sa façon.
Ça change quand même beaucoup de choses. Je serais obligé d'aller fumer le cigare ailleurs.
Voilà. Aujourd'hui, ils sont encore en couple et ils ne sont pas les moins surpris.
Mes deux parents sont drôles.
Il y a des moments où j'ai envie de le tuer. Je suis sûre que c'est réciproque. Donc là, sur ce plan, on est encore un vrai coup.
Moi, c'est pas une béquille très rassurante, hein, Françoise. Elle peut être très souple pour l'aide. Je le hais, je veux le tuer. Je sais pas pourquoi. Donc elle m'aime.
Oui, donc elle l'aime. Et
elle
on termine par où elle a commencé.
Il a un aplomb. Bah oui, grâce à vous, je sais ce que je vais regarder ce soir à la télévision.
Ah, c'est une bonne émission. C'est pas par ordre chronologique, mais tout est dedans.
Dans un instant, on va retrouver Monique Younes avec qui on fera un tour au sein des Journées européennes des métiers d'art, de très nombreuses manifestations. Mais pour nous, ce matin, Monique en a choisi une bien particulière.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Monique Younes, la France célèbre cette semaine les Journées européennes des métiers d'art. Près de 600 manifestations mettront en lumière dans toutes les régions tous les savoir-faire uniques. La palme de l'exposition la plus originale, m'avez-vous dit, revient largement au Palais de Tokyo à Paris. Elle a pour titre Double Jeu, JE.
Oui, et le Palais de Tokyo a pris l'habitude de surprendre le visiteur en lui proposant des expériences inédites. Mmh. Il y a 2 ans, la performance de l'artiste Sven
Sackalbert
consistait à trouver une aiguille. Une aiguille, vous vous souvenez, dans une gigantesque botte de foin.
C'est bien. Oui.
Voilà,
il avait mis 2 jours à y parvenir. Hein.
C'est ça. Et l'été dernier, par exemple, Céleste Boursier-Mougenot a inondé une partie du palais de Tokyo, le transformant en un lac sombre. Il y a encore quelques mois, Ragnar Kjartansson mettait en scène.
Il n'y a pas que des gens avec des noms.
Mais bien sûr, je fais exprès. Oui. Il mettait en scène un homme et une femme dans leurs appartements respectifs. Mm-hmm. On les voyait se réveiller, s'habiller, se coiffer, se retrouver sur la place publique. Ils se disaient bonjour, puis retourner chez eux, se déshabiller pour se rhabiller, etc. La performance était répétée à l'infini et c'était donc exquis. Alors, quand la Fondation Bettencourt, grand mécène des métiers d'art, a proposé à Jean Deloisy, le patron du Palais de Tokyo, d'imaginer une exposition autour des métiers d'art, il ne s'est pas contenté d'aligner ce que les plumassiers, les brodeurs et autres marketeurs font de mieux, non. Il a demandé à l'auteur de Polar, Franck Tillier, d'imaginer un scénario qui mettrait en scène tous ces objets. Nous voilà donc embarqués, comme au cinéma, dans la maison et les ateliers d'un artisan très très raffiné, très doué, mais qui vient de commettre un meurtre. Jean Deloisy vous sert de guide, écoutez.
Nous nous promenons et nous rentrons dans une maison. Cette maison est assez étrange, c'est le numéro 8 d'une rue inconnue. Mais à peine suis-je rentré, je vois qu'il y a des bureaux bouleversés, des œufs d'autruche cassés, et je suis à l'intérieur de l'appartement de la victime. Probablement, il y a des scellés de la police sur les murs. Et je vois un lit, mais alors totalement stupéfiant, conçu pour l'exposition par un grand designer qui s'appelle Felipe Ribon. C'est une plaque de marbre en forme de test de Rorschach autour de laquelle il y a des colonnes assez grandes. Les unes sont faites en pierre taillée, les autres en œuf d'autruche. Et un drap maculé de sang est brodé. Et un peu plus loin, visiblement installé par la police, il y a une dague, un couteau très pointu. Et quand on regarde les détails de ce couteau, on s'aperçoit que le manche est fait en vertèbres de serpent moulées en argent et que la lame en fer damassé représente une tête de mort.
Vous voyez, une extrême sobriété.
Mais vous visitez cette exposition au Palais de Tokyo comme un détective, un livret à la main qu'on vous donne à l'entrée. Et de pièce en pièce, vous découvrirez en même temps les pistes du crime et des objets très surprenants mis en scène par la scénographe Pascal Consigny. Dans le garage, par exemple, le plumassier Maxime Leroy a couvert une moto de course de plumes noires qui lui donne un air d'oiseau de mauvais augure. Dans l'atelier, la brodeuse Capucine Herbeau a brodé des perles sur des mûts de serpents. Parfois, artisans et artistes ont travaillé ensemble pour réaliser des œuvres spectaculaires.
Les artistes et les artisans ont réussi à s'entendre.
Mais oui, 15 artisans d'art, 8 artistes ont appris à se connaître et à s'apprécier au-delà des préjugés qui nourrissent les uns et les autres. Vous adorerez le travail, je suis certaine, des designers François Brumand et Sonia Logier qui ont imaginé un logiciel permettant de créer un vase à partir du son de la voix. Vous émettez par exemple un son devant un micro.
Ah !
Ou encore un.
Ah !
Et vous voyez sur l'écran de l'ordinateur la forme du vase qui correspond au fond que vous avez émis. Le vase pourra être réalisé grâce à une imprimante 3D. C'est ludique et fascinant, comme l'est cette exposition Double Jeu au Palais de Tokyo que vous avez jusqu'au 16 mai pour découvrir.
Merci infiniment, Monique Younes.
Merci.
La dame, s'il vous plaît. Mettez-nous la dame. La dame.
Ah,
oh, oulala.
C'est Monique.
Je vous prie de m'excuser. Non, ça, c'est pas
Monique.
Bien
sûr, c'est moi.
Toi, ça.
Ah, si, c'est
bon, je vous tutoie maintenant, ça va pas.
Voilà.
Dans un instant, sans vous tutoyer, vous saurez si vous avez gagné les DVD de ce film formidable que nous avons tant aimé cette année, L'Hermine, film de Christian Vincent avec Fabrice Lucchini. Il fallait répondre à la question de Stéphane, mais je vous la rappellerai dans un instant.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Quelle actrice interprète le rôle de la maman dans l'un des... Pardon, je vais articuler. Dans l'un des ados du film Quand on a 17 ans, d'André Téchiné. J'ai beau essayer d'articuler, ça ne passe pas.
Sandrine Kiberlin.
Sandrine Kiberlin. Vous avez donc gagné un DVD Gaumont de L'Hermine, le film de Christian Vincent avec Fabrice Lucchini que nous vous offrions avec grand plaisir ce matin. Merci à toute cette équipe qui était parfaite en ce lundi de Pâques. N'hésitez pas là encore à prendre quelques petits chocolats au lait qui nous ont été amenés par Nicolas Domenac. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. et il ne nous reste plus qu'à retrouver notre camarade Julien Courbet.